Sur les entreprises, l'année dernière, on a financé 10 milliards d'euros en mettant une contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés sur les grandes entreprises, sur les multinationales. On peut très bien trouver une partie du financement de cette manière-là. C'est pas la solution unique. Après, dans le budget, on peut trouver, vous savez, on peut aller plus vite sur la réforme des niches fiscales. Il y a un certain nombre... Voilà, donc maintenant, il va falloir qu'on construise ça dans les jours qui viennent. De toutes les manières, les mesures qui sont annoncées là, il faudra un projet de loi rectificatif à la loi de finances de la sécurité sociale. Donc, de toutes les manières, il faut qu'on établisse ce budget.
Jean-Marc Vittori, où est-ce qu'il peut trouver cet argent ?
Il va le trouver dans le déficit pour l'essentiel. Voilà, je pense que ça ne va pas être plus compliqué que ça. On avait un déficit qui devait revenir à 2,8% l'an prochain. Il va exploser sans problème le plafond des 3%.
En janvier, donc, a priori.
Pierre Moscovici, qui est le commissaire européen en charge de l'économie, a déjà dit que la France pourrait se permettre d'aller un peu plus loin dans le déficit que prévu. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais en substance, c'est exactement ce que ça voulait dire. Donc, ça va se passer comme ça. On a d'une certaine manière une chance au niveau français. C'est ce qui se passe au Royaume-Uni et ce qui se passe en Italie. Donc, à la Commission de Bruxelles, actuellement, on pense qu'à la négociation avec le Royaume-Uni. Hein, vous avez vu qu'en France, la situation est compliquée. Elle l'est aussi terriblement au Royaume-Uni. La priorité de Bruxelles aujourd'hui, c'est la négociation avec le Royaume-Uni.
Et on lâche du lest avec l'Italie et la France.
Et derrière, il y a l'Italie. Et donc, si on ne lâche pas de l'Est au Royaume-Uni, parce que sinon l'Italie va revenir. Alors la France, ça vient loin derrière. Et donc, c'est une forme de chance dont profite
Emmanuel Macron. Donc, Bruxelles pourra accepter une sorte de 3% de déficit public face au PIB.
C'est ce qui va se passer, oui.
Jean Messia.
C'est-à-dire que c'est quand même assez surprenant. C'est que pendant des mois, voire des années, on nous a expliqué que le dogme budgétaire bruxellois était indépassable. Le dogme des 3% et des 60%. On constate que les 60%, on a explosé le plafond depuis bien longtemps. Et là, en fait, le gouvernement, Emmanuel Macron, il est entre un choix. C'est soit déplaire à Bruxelles, soit déplaire à son peuple. Il avait choisi pendant des mois de déplaire à son peuple pour satisfaire Bruxelles. Et là, maintenant, sous la colère de la rue, et parce qu'on est sur un seuil qui est quand même très dangereux, il décide enfin... D'écouter son peuple. J'ajoute que sur les mesures qu'il a annoncées...
Ça vous gêne vraiment ce déficit de 3% du PIB, pardonnez-moi, mais dans le fond.
Ah non, mais moi ça ne m'a jamais gêné. Moi, le fétichisme des chiffres, si vous voulez, imposé par Bruxelles, ça ne m'a jamais gêné. Ça gênait Emmanuel Macron et ça gênait un certain nombre de dogmatiques européistes qui sont au gouvernement.
Vous pensez qu'il se renie ?
Moi, je crois qu'il se renie, mais force est de constater qu'il est obligé de se renier. Par ailleurs, sur la classe moyenne... Il a rien annoncé sur la classe moyenne, parce que les gens et la classe les très pauvres non plus, les gens qui sont au RSA par exemple, on n'annonce rien pour eux. Et la classe moyenne elle-même, de quoi elle bénéficie ? De rien du tout, parce que le SMIC, ça ne concerne pas la classe moyenne et ça ne concerne pas non plus les très pauvres. Donc vous avez là deux môles sociaux qui sont totalement en dehors des radars d'Emmanuel Macron. Or, les gilets jaunes sont quand même composés en grande partie aussi par la classe moyenne.
Émilie Carré, vous avez l'impression qu'il s'est un peu renié ce soir tout de même, le président, justement, en acceptant de faire filer ses déficits, par exemple, alors qu'effectivement, il était vraiment sur une ligne de rigueur.
Non, là, on ne va pas faire filer les déficits. Le Rassemblement national est toujours là pour critiquer, mais pour proposer des solutions, là, il n'y a jamais personne. Donc là, on nous propose des solutions de court terme, en tous les cas, pour régler des problèmes de pouvoir d'achat. Donc il faut qu'on les prenne. De toute façon, l'urgence sociale, elle est là, il faut qu'on la traite. C'est pas se renier, c'est faire preuve de pragmatisme et on adapte notre projet à la réalité. Après, le projet, c'est d'abord un projet de dynamisation de l'économie, de créer de la croissance en France. On avait les premiers signaux de retour d'investissement en France. Bien évidemment, c'est ça qui va créer de la richesse pour tout le monde et qui, au final, fait augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde.
Roselyne, vous voulez dire quelque chose ?
Oui, sur la question comment il finance, il a dit qu'il allait taxer les grandes entreprises, donc j'imagine les GAFA. J'aimerais peut-être vous demander... Vous, économiste,
où en est-on,
combien ça... Je voudrais savoir, ça m'intéresse de savoir combien ça peut rapporter dans les caisses de l'État de taxer les GAFA.
Je pense que personne n'en a la moindre idée, sauf à supposer d'avoir une taxe sur le chiffre d'affaires, qui était une proposition française. Il y avait une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires, qui était une proposition française.
C'est une proposition de Bruno Le Maire, voilà. Oui.
qui est en cours donc, à Bruxelles.
En cours, ouais, c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas...
Mais non, mais c'est de l'ordre de quelques centaines de millions, ça ne peut pas être plus.
Ah oui, c'est pas... Oui, donc c'est...
Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas
même
rien
les,
du tout.
Mais
ça
n'est les pas, Google, et ça ne sera qu'autour de son...
Oui. D'accord. Et surtout, il n'y a pas eu d'accord des autres pays européens pour l'instant.
Oui, mais Bruno Le Maire a dit qu'il le ferait.
Il peut y avoir une décision purement française, Bruno Le Maire l'a dit, et juridiquement, c'est tout à fait possible.
Virginie Duby-Muller, bonsoir. Vous nous avez rejoint, vous êtes députée de Haute-Savoie, 4e circonscription, Les Républicains. Comment avez-vous trouvé Emmanuel Macron ce soir ?
Mais écoutez, un peu de déception. Il y a effectivement une première partie où enfin il fait son mea culpa et il fait preuve d'humilité. Je crois que c'était un signe attendu de la part des Français. En revanche, nous avons ensuite un catalogue de mesures qui, pour beaucoup, effectivement, ne sont pas financées. Vous étiez en train de parler du financement. On parle effectivement des GAFA. Alors, si on ajoute Netflix ou Microsoft, tout dépend lesquels. Mais aujourd'hui, on ne sait pas concrètement comment seront financées ces mesures. On parle effectivement...
Sur les mesures en tant que telles, est-ce que c'est un geste social fort qu'il a fait tout de même ce soir Emmanuel Macron ? Et est-ce que finalement vous y adhérez tout de même à ce geste social face à la crise des Gilets jaunes ?
Sur les baisses de taxes, bien sûr, et c'est ce que nous portons d'ailleurs depuis plus d'un an chez les Républicains. En revanche, par exemple, sur la taxation sur le carburant qui va être donc supprimée pour l'année 2019, il ne parle pas de la trajectoire qui était prévue jusqu'à 2022. Sur les classes moyennes et le fait effectivement d'avoir un geste pour les personnes qui touchent le SMIC, on ne prend pas en compte les classes moyennes qui souffrent réellement. Puisque,
donc il fallait en ajouter d'autres ?
Bien sûr. Moi, je pense que c'est insuffisant et que c'est loin de répondre à la crise actuelle qui a été portée en partie par les Gilets jaunes.
C'est insuffisant, mais ça coûte déjà plusieurs milliards. Comment le financer si on en rajoute d'autres ?
Alors, chez les Républicains, nous avions présenté avec Laurent Wauquiez un plan d'économie de 20 milliards d'euros. Il y a des mesures sur l'aide médicale d'État, sur le fait d'aligner le temps de travail des fonctionnaires sur le privé. Enfin, donc, nous, on avait un projet concret avec des économies à faire. Et puis, sur ces hausses de taxes, effectivement, nous, ça fait un an que nous les dénonçons. Nous avions fait des amendements au projet de loi de finances pour 2018, pour 2019. Enfin, il nous entend. Enfin, il y a un changement de braquet, mais qui intervient un peu tard et qui est, en l'état, insuffisant.
Émilie Cariou, c'est vrai, après tout, c'est vrai que le président de la République avait parlé de baisse des dépenses. Là, on n'y est pas du tout.
Oui. Aucune mention de baisse des dépenses. Je rappelle quand même que 2002-2012, c'est 1 000 milliards d'euros de déficit en plus, quoi. Je veux dire, c'est à cette époque-là, sous la gestion des LR, à l'époque UMP, que la dette, elle explose. Et le déficit, il explose.
Et des socialistes, donc, Mme Cariou, vous étiez conseillère
dans le projet de M. Fillon, il y avait l'augmentation de la TVA. Donc la TVA, elle est injuste aussi. Donc là, on est tous aujourd'hui impliqués dans une certaine orthodoxie budgétaire qu'on essaie de tenir parce qu'on ne veut pas créer de la dette pour nos enfants. Et de toutes les manières, on ne veut pas continuer à augmenter la dette. Là, on a une urgence sociale à traiter. Il fallait la traiter. Moi, ce que je trouve intéressant ce soir, c'est que le président, il a montré clairement qu'il avait parfaitement écouté les préoccupations des Français, qu'il était à l'écoute du peuple français dans toutes ses composantes. Sur les classes moyennes, je n'entends pas les classes moyennes. Vous savez que l'année prochaine, on va donner du CICE aux entreprises et puis il y aura la baisse des charges sur les salaires aussi qui va intervenir. Je pense qu'il y a urgence à ce que les entreprises flèchent ces économies-là vers des salaires supplémentaires ou des embauches ou l'investissement dans l'outil industriel. Et donc, il faut absolument qu'investir dans les entreprises. Il faut qu'il y ait de l'embauche à la clé de ces baisses de charges.
Virginie Duby-Muller, vous êtes satisfaite de cette réponse parce qu'effectivement, il va y avoir une baisse des cotisations sociales sur les salaires, donc ça devrait impliquer les classes un peu plus aisées, disons, que celles qui sont au SMIC.
Certes, mais sur la mesure, par exemple, de la prime, qui paie, ça va être les entreprises, dans un contexte quand même de croissance atone.
Et
sur
La prime de fin d'année.
La prime de
fin d'année. Qui a été annoncée par Emmanuel Macron.
Prime de fin d'année, pardon. Et sur la question des comptes publics, je voudrais rappeler quand même que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la dépense publique augmente, le déficit augmente, les prélèvements obligatoires également. Nous sommes le bonnet d'âne de l'Europe. Et puis quand même, on va atteindre quand même les 2,8% du PIB, alors que vous savez qu'on a un plafond à 3% sur la zone euro et que ça va être la première fois en 10 ans que ce chiffre augmente. Donc ne nous dites pas qu'il y a eu une rigueur budgétaire qui a été faite depuis l'élection d'Emmanuel Macron, puisque c'est pire que ce qui a été fait sous le quinquennat de François Hollande.
Virginie Duby-Muller, mais il fallait parler ce soir de baisse de la dépense publique face à la crise des Gilets jaunes.
Oui, parce que...
Pendant lequel il fallait en parler.
Il faut une cohérence. Lorsque vous annoncez des mesures fiscales, il faut savoir comment on les finance. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser filer la dépense publique dans notre pays. Parce qu'effectivement, on le fera porter sur les générations futures. Et c'est irresponsable. Donc nous attendions effectivement de connaître le financement, comment on baisse les dépenses publiques. Et puis là, vraisemblablement, les entreprises risquent d'avoir leur part aussi pour participer à ces mesures.
Ce sont les entreprises qui vont financer la prime de fin d'année ?
La prime de fin d'année, là, on
oui,
ça,
Macron,
ça, ça c'est, bien sûr, mais... c'est des primes qui sont versées par les entreprises, mais déchargées, c'est-à-dire sans charge.
Sans charge.
Non, mais...
Donc, qu'est-ce que ça va coûter aux entreprises
Ces primes n'ont rien obligatoire. Dans les entreprises où il y a de la marge, on pourra les donner.
Absolument.
Dans les entreprises où il n'y en a pas, on ne pourra pas les donner. Mais les entreprises ont la liberté. Hein. Quand on regarde l'ensemble des mesures qui ont été annoncées, il n'y a aucune mesure contraignante pour les entreprises. Hein. Toute la charge sera portée par les finances publiques. C'est tout à fait frappant dans ce qui a été présenté ce soir. Les manifestants s'adressaient directement au président. C'est le président qui leur répond et il ne fait pas payer la note pour les entreprises, même s'il a annoncé que il y aura des efforts pour faire rentrer davantage ce qui relève de l'évasion fiscale et puis les avantages indus. Mais il a fait dans le flou. Toutes les mesures contraignantes sont des mesures qui porteront sur les finances publiques.
Donc ça portera sur les finances publiques, a priori pas sur les entreprises.
Mais écoutez, attendons de voir précisément quelles seront les mesures d'économie qui seront faites pour permettre le financement des annonces.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Virginie Duby-Muller. Roselyne, finalement, il n'y a pas d'annonce véritable d'une mesure politique. C'est vrai qu'un certain nombre de gilets jaunes souhaitaient, bon, alors, entre eux, effectivement, on va accueillir Manuel Bompard qui va revenir justement sur ce désir de dissolution qui existait chez la France insoumise, mais au-delà de ça, ils souhaitaient des référendums locaux, une façon de participer politiquement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ça ce soir du tout.
Non, parce que ce n'était pas l'urgence. On ne peut pas ajouter... la réponse, elle est sociale. Peut-être qu'il y aura une réponse politique dans un deuxième temps. Mais en fait, moi, je trouve que ce qui est important ce soir, c'est qu'on sait que certains gilets jaunes veulent l'acte 5, hein, qui ne veulent pas discuter. On leur donne 100 euros, 200 euros, ils en voudront 300, 400, 500. Donc ceux-là, ils ne brosseront pas la garde parce qu'ils veulent plus. Et la question est ce soir, est-ce que dans le fond, ce que dit Emmanuel Macron ce soir aura de l'influence sur, dans le fond, ceux qui participent de bonne foi au mouvement et qui vont se détacher de l'appel à manifester, car appeler à manifester, c'est garantie d'une certaine violence. Donc c'est ça la question. La question politique, c'est que Emmanuel Macron, il plie ce soir. C'est un peu comme le Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. C'est que le chêne s'est un peu déraciné et il plie. Et c'est ça. Je dirais que l'information politique ce soir, c'est ça. C'est un Emmanuel Macron qui plie sur sa politique de l'offre, en quelque sorte, et il donne une inflexion sociale. Et voilà, c'est.
Et est-ce que ça va arrêter les manifestations ? C'est ce que vous dites.
Bah oui,
ça va réussir à les convaincre jusqu'au bout.
Est-ce que
le dialogue est plus la manifestation ?
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va avoir de l'influence ce soir sur ceux qui sont satisfaits, qu'on appelle les modérés, qui considèrent que voilà, c'est suffisant ? Est-ce qu'il aura de l'influence là-dessus ? C'est dans le fond la grande question. Et la question politique, on sait qu'il y a eu des frictions entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, mais il ne peut pas ajouter à la crise sociale une crise politique, c'est-à-dire se débarrasser d'un Premier ministre avec lequel, effectivement, était un peu un Premier ministre droit dans ses bottes, qui ne voulait pas céder, qui a commencé déjà, alors que Gérard Collomb avait dit que les 80 km/h étaient une erreur. Voilà, le Premier ministre, on a bien senti qu'il y avait quand même entre eux, même s'ils s'entendent plutôt bien, qu'il y avait un Premier ministre qui ne voulait pas céder.
Il y aura peut-être une séquence politique à vous écouter après cette fameuse séquence sociale.
Peut-être.
Manuel Bompard, bonsoir. Vous avez rejoint le directeur de campagne de la France Insoumise. Comment avez-vous trouvé le président ce soir ? Il vous a convaincu ?
Non, je pense que ce soir, les grandes fortunes et les multinationales sortent le champagne. Parce que bien
pas
sûr,
les GAFA, puisqu'ils vont être taxés visiblement.
Oui, mais les grandes fortunes et les multinationales sortent le champagne. Le président de la République a écarté tout rétablissement de l'impôt sur la fortune.
En fait, c'est ce que vous souhaitiez. Vous souhaitiez qu'il rétablisse les...
Non, mais ce que je souhaitais, c'était, enfin pas seulement, ce que j'entendais des revendications qui s'exprimaient, c'était davantage de justice. Et la justice, c'est effectivement prendre dans la poche de ceux qui ont beaucoup et répartir autrement les richesses. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que, bien sûr, le président de la République a été obligé de faire des annonces. Et
alors justement, que pensez-vous de l'augmentation du SMIC de 100 euros par mois, également du fait qu'il n'y aura pas, qu'il y a une annulation de la CSG pour les revenus qui sont inférieurs à 2000 euros par mois?
L'annulation de la CSG, c'est une bonne première victoire. Mais regardez, par exemple, sur ce sujet, il n'a pas dit qu'il renonçait, qu'il rétablissait l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Donc, je trouve que tout ça est très insuffisant et surtout que ça revient finalement à distribuer de l'argent public et donc à faire payer par l'impôt des hausses de salaire, par exemple.
Ce sont des mesures sociales, tout de même, qu'on va financer.
Non, mais bien sûr que c'est mieux que rien. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est nul, mais c'est mieux que rien. Mais le problème, c'est que personne n'est mis à contribution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui va être utilisé, puisque la hausse du SMIC qui est annoncée est en réalité une suppression de cotisations sociales. Hein, c'est ce qu'il vient d'exprimer, puisqu'il dit que les entreprises et les multinationales n'auront rien à débourser, n'auront rien à payer. Donc, je trouve que ça revient finalement à financer ça par l'impôt. Or, je pense qu'il y avait d'autres solutions possibles qui étaient d'aller chercher effectivement de l'argent dans la poche de ceux qui en ont beaucoup et à ceux à qui M. Macron a distribué de nombreux cadeaux, 10 milliards d'euros environ l'année dernière. Je pense que là, il y avait
Pour ça, l'ISF et la flat tax sur le capital générique. Émilie Cariou, effectivement, il n'était pas question, on a bien compris ce soir, de toucher à l'ISF.
Oui, mais en revanche, moi je
qui est un impôt symbole, et c'est vrai qu'un certain nombre de gilets jaunes souhaitaient également, comme Manuel Bompard, justement, qu'on revienne sur l'ISF, qui est beaucoup revenu pendant ces 4 semaines.
Il avait beaucoup de travers qui étaient de faire fuir les chefs de PME dès lors que leur entreprise commençait à grandir. Moi, j'ai vu de nombreux chefs d'entreprise partir en Belgique, à l'île Maurice, et après les investissements, ils n'étaient plus du tout en France.
Sur l'ISF, on a
inclus une clause de revoyure, c'est le Parlement qui l'a incluse, pour pouvoir voir les effets réels de cette mesure.
Donc vous allez donc l'évaluer.
On va l'évaluer. En revanche, je ne peux pas laisser dire qu'on ne fait rien sur l'évasion fiscale et la fraude fiscale. D'ailleurs, la France Insoumise a voté avec nous la loi sur la fraude fiscale. C'est une loi... Il y a quand même plusieurs outils juridiques. On ne peut pas non plus être trop dans l'imprécision sur ce sujet-là. On a eu 13 directives communautaires pour avoir la transparence des flux financiers et toute une série de dispositifs anti-optimisation fiscale. On a une convention OCDE qui est passée. On a une loi fraude en droit français qui vient de passer, qui va être mise en application, avec notamment des procédures améliorées sur la poursuite pour fraude fiscale au niveau du pénal. Donc, je veux dire, on a tout un arsenal juridique qui va monter en puissance. Et notamment, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans, et je peux vous le dire, puisque je travaillais dans les services fiscaux et je vérifiais les multinationales, on n'avait pas les outils de transparence bancaire pour avoir justement toutes ces informations sur les flux qui partent partout dans le monde. Le contrôle fiscal aujourd'hui, c'est 20 milliards d'euros, vous savez, par an.
Pardon ?
Le contrôle fiscal.
80 milliards d'euros.
C'est la fraude, c'est l'optimisation fiscale.
La fraude et l'évasion.
Moi, je vous dis, aujourd'hui, le contrôle fiscal, quand on ajoute l'impôt plus les pénalités, on est de l'ordre de 20 milliards d'euros de redressement. Avec ces nouveaux outils juridiques, des nouveaux outils de recoupement. Je vous parle du contrôle fiscal, messieurs.
Fraude et évasion, c'est 80 milliards,
Je vous parle des redressements qui sont pratiqués. Je ne vous parle pas de l'optimisation qu'il faut qu'on aille chercher, notamment avec ces nouveaux outils juridiques. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien sur le sujet.
Sur l'optimisation fiscale, d'ailleurs, il a dit qu'il voulait aller plus loin, le président. Mais effectivement, il a parlé de lutte contre l'évasion fiscale. Il a dit d'ailleurs qu'il allait s'asseoir avec les plus privilégiés pour voir comment ils pouvaient participer éventuellement à un financement. Mais bon, pour l'instant, effectivement, ça reste
Sur l'ISF, l'ISF, si vous voulez, il a été juste recalibré pour ne toucher que les propriétaires de fortune immobilière, en tout cas la résidence principale, etc.
Il a été recalibré pour ne pas toucher l'investissement productif.
Alors la théorie, c'est quoi derrière? C'est la théorie du ruissellement. On constate qu'au bout de 18 mois, si vous voulez, on a épargné d'impôts ceux qui placent dans des capitaux, donc les valeurs mobilières, et on constate que absolument rien n'a ruisselé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les...
C'est fou, l'investissement.
Mais bien sûr que non, ça n'a pas ruisselé. D'ailleurs, le président a justement veut une mission d'évaluation pour savoir tous les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux entreprises, combien la France en a récupéré en termes d'emploi et en termes de relocalisation du capital. Je crois qu'il n'y aura pas grand-chose.
Non, mais là,
on a taxé la propriété et on a défiscalisé
c'était
dans l'ISF. Le nomadisme.
On a sorti défiscalisé de l'ISF l'investissement dans l'outil de production,
c'est très injuste.
Nos entreprises ont besoin de financement. Nos entreprises ont besoin d'innover,
mais ça ne se passe pas comme ça.
Mais bien sûr.
Mais non, non, il n'y a pas, y a pas un euro qui est revenu en France depuis que vous avez défiscalisé.
Pas du tout, il y a un retour des investissements.
Mais non, il n'y a rien qui est...
Vous le verrez.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron ne reviendra pas sur l'ISF, en tout cas pas ce soir.
Je veux juste ajouter quelque chose, c'est que les annonces qui ont été faites et qui bouleversent évidemment l'économie budgétaire de la France, qui était indispensable sur le plan social, ça va être très compliqué à mettre en œuvre, sachant que la croissance a encore été revue à la baisse par la Banque de France. On parle maintenant désormais de à peu près 1,2 de croissance pour l'année. Donc je ne sais pas très bien comment vous allez financer ça. La deuxième chose, c'est par rapport à l'Union européenne. Je m'étonne quand même que tous les européistes qui avaient sorti la grosse artillerie contre l'Italie pour non-respect des critères budgétaires, parce qu'elle avait un budget démagogique, populiste.
Enfin, ils ont 130% de PIB de dette
désormais,
publique.
Désormais, on en a 100%, hein, donc c'est pas beaucoup mieux. Et là, tout d'un coup, changement de ton, on a vraiment l'impression que c'est un système qui mêle l'Europe et les grands rentiers politiques et médiatiques et économiques et financiers. C'est, il faut sauver le soldat Macron. Et pour ça, tout est bon.
Manuel Bompard, vous souhaitiez, vous, France Insoumise, qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale, me semble-t-il ?
Oui, bien sûr, mais pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un état de blocage aujourd'hui avec deux légitimités qui s'affrontent. Vous avez un mouvement des Gilets jaunes qui est à peu près soutenu par 70 à 80% de la population, c'est ce que disent les enquêtes d'opinion. Et vous avez une majorité assez pléthorique à l'Assemblée nationale qui n'entend pas ces revendications. La preuve est encore faite, je crois, ce soir. Et donc vous avez deux légitimités aujourd'hui qui s'affrontent. Et la manière pacifique, c'est pas une mesure extraordinaire, la mesure pacifique de régler des problèmes de légitimité dans une démocratie, c'est de retourner aux urnes, c'est de permettre aux citoyens de faire leur choix entre des projets de société différents qui s'affrontent. Il me semble que ça me paraît assez logique, cohérent, que quand on est bloqué, et on est dans un état de blocage parce que l'état de tension dans lequel aujourd'hui est le pays n'est bon pour personne. Je pense que personne ne souhaite ces week-ends de mobilisation où malheureusement qui sont émaillés de violence, avec une tension qui monte, avec des forces de l'ordre qui sont extrêmement sollicitées. Et la démocratie, c'est de régler les problèmes par le vote, par les urnes. Donc je pense effectivement... pense que ça, on va y venir, vous savez, madame, parce que je ne crois pas, mais c'est pas à moi de décider, les gens qui sont mobilisés le diront, mais je ne crois pas que les annonces de ce soir soient en mesure empêcher les gens de poursuivre la mobilisation.